Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Ce magazine sera largement consacré à la visite de François Hollande au Vatican, au centre des entretiens comme cela avait été annoncé, la guerre en Syrie, la situation en Centrafrique et au Mali, l'environnement ou encore le sort des chrétiens d'Orient, mais aussi les questions sociétales qui suscitent actuellement en France malaise et inquiétude au sein de la communauté catholique, compte rendu et réaction dès le début de cette émission. Place à l'écuménisme également alors que s'achève la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous nous attarderons en particulier sur les rapports entre Rome et Moscou. Une visite très attendue et médiatisée, François Hollande a effectué ce vendredi sa première visite au Vatican, 20 mois après son élection, alors qu'il s'était déjà rendu 4 fois en Italie. Si le chef de l'État français a soigneusement évité d'aborder les thèmes délicats devant les journalistes, préférant énoncer les sujets de convergence, le Vatican, au contraire, a indiqué dans son communiqué officiel que la famille, la bioéthique, le respect des communautés religieuses et la protection des lieux de culte avaient bien été examinés dans le contexte de la défense et de la promotion de la dignité de la personne humaine, ainsi que des thèmes plus consensuels comme l'environnement, le développement, l'immigration ou encore la pauvreté. François Hollande s'est entretenu en tête-à-tête avec le pape François avant de rencontrer pendant plus d'une heure le secrétaire d'État Pietro Parolin et le secrétaire pour les rapports avec les États, Mgr Dominique Manberti. Le compte-rendu d'Hélène Destombes.
Une visite pour faire connaissance, mais surtout une visite pour afficher des lignes communes avec le Saint-Siège et détendre l'atmosphère en France. Alors que les catholiques sont inquiets face à certaines décisions ou projets du gouvernement qui concernent le mariage pour tous, l'avortement ou la fin de vie, c'était, semble-t-il, pour l'Élysée le but de cette visite. L'entretien de ce vendredi matin entre le pape François et le président français s'est prolongé durant 35 minutes, preuve que les deux hommes avaient des choses à se dire. Et si le climat était très solennel, voire crispé lors de la poignée de main devant la bibliothèque, le Saint-Père et François Hollande sont apparus beaucoup plus souriants à l'issue de leur échange. Mais si dans un communiqué, le Saint-Siège a fait savoir que des thèmes tels que la famille et la bioéthique avaient été abordés au cours des entretiens, François Hollande, lui, s'est bien gardé lors de sa conférence de presse d'évoquer les sujets qui fâchent. Il s'est donc concentré sur les préoccupations communes, la protection de l'environnement, le soutien tient l'Afrique, qui doit être au cœur des discussions au plus haut niveau, la recherche de la paix en Syrie.
Je rappelle que le Saint-Siège est partie prenante de la conférence de Genève, participe en tant que tel. Et j'ai exprimé le souhait que le Vatican puisse accueillir la coalition démocratique syrienne pour bien faire comprendre que la paix doit être recherchée à travers une solution politique qui permette le pluralisme. Et la conférence de Genève doit être tournée vers la transition. Et c'est ce qui, là encore, nous a permis de nous retrouver, le Saint-Père et moi-même.
François Hollande a également affiché clairement le soutien de la France sur des dossiers prioritaires pour le Saint-Siège, tels que l'attention aux réfugiés, la lutte contre le trafic d'êtres humains, mais aussi la protection des chrétiens, et en particulier des chrétiens d'Orient. Ces déclarations lisses et consensuelles vont-elles convaincre les catholiques français? Ces échanges au Vatican pèseront-ils sur les prochaines décisions du gouvernement français? Les catholiques en France seront, on peut l'imaginer, attentifs aux premiers signes concrets de dialogue.
Voilà, vous l'avez entendu, à l'issue de cette visite devant la presse, François Hollande a assuré que son entretien avec le pape François avait permis d'afficher leur convergence sur les grands sujets internationaux, mais il n'a pas évoqué les enjeux de société qui fâchent, comme l'avortement. Il a affirmé partager avec le pape la même valeur commune de la défense de la dignité humaine. Il l'a assuré du respect du peuple français pour son message de paix, de solidarité et de justice. On écoute François Hollande.
J'ai confirmé au pape François que la France défend partout la liberté religieuse, parce que la France, c'est la patrie des droits de l'homme et donc de la liberté. De la liberté de conscience, de la liberté de conviction, de la liberté religieuse.
François Hollande devant la presse ce vendredi à la mi-journée à l'issue de sa visite au Vatican. Convergence également en ce qui concerne la Centrafrique où, selon François Hollande, les risques d'un conflit interreligieux sont réunis. Convergence totale pour le succès de la conférence climat qui doit avoir lieu à Paris en 2015. Écoutez à ce propos Nicolas Hulot qui faisait partie de la délégation du chef de l'État français.
Le sujet climatique est revenu à plusieurs reprises et l'idée d'harmoniser nos efforts entre la France et le Vatican. Je pense que les églises en général et l'église catholique en particulier peuvent nous être d'une grande contribution pour créer les meilleures conditions en vue de la conférence climat 2015, c'est-à-dire pour faire en sorte que pour une fois l'humanité soit capable de partager un diagnostic mais partager une mobilisation. Parce que pour l'instant on est passé sur ces sujets-là d'une forme d'indifférence et d'une forme d'impuissance. En attendant, les phénomènes malheureusement ne nous attendent pas, ils ont déjà des coûts humains importants. Et je pense que c'est important, encore une fois, que des voix qui peuvent passer au-dessus du bruit de fond de nos sociétés puissent nous appeler à la sagesse et à la raison, et surtout à la mobilisation.
Et selon le chef de l'État français, le pape François prépare un texte sur la nature comme bien de toute l'humanité. Arrivé par la solennelle cour Saint-Damase à 10h30 ce vendredi matin, François Hollande était entré dans le palais pontifical derrière le cortège des gentilshommes de sa sainteté, accompagné du président de la maison pontificale, conformément au protocole prévu lors des visites officielles. Il a offert au pape un ouvrage sur saint François de Sales, célébré ce vendredi. Le président s'était fait accompagner de représentants du monde catholique français, dont le père missionnaire Georges Vandenbosch, récemment libéré au Nord Cameroun et que le pape François a chaleureusement embrassé. Hélène Destombes a recueilli son témoignage.
Ça a été très très rapide, hein, très rapide et très simple, hein, parce que bon, il a salué le commandant de la délégation. Moi, il m'a pris dans ses bras, voilà. Il m'a dit deux trois petits mots que j'arrive même plus à me rappeler précisément, mais bah, c'était un peu qu'il avait prié pour moi, qu'il me pensait bien à moi, tout ça, voilà. Bah, il est comme ça, bienveillant, voilà, facile d'accès. J'étais content, ouais, j'étais content de voir le Saint-Père.
Le père Georges Vandenbosch, enlevé dans le nord du Cameroun par le groupe islamiste nigérian Boko Haram, est libéré récemment. Dans la délégation française se trouvait également, bien sûr, le ministre de l'Intérieur chargé des cultes, Manuel Valls. 120 000 catholiques français ont adressé ces derniers jours une supplique au pape François pour lui faire part de leur profond malaise, impopulaire auprès de la majorité des fidèles catholiques à l'approche des élections municipales et européennes. M. Hollande avait souhaité, selon l'un de ses conseillers, leur adresser un message fort de dialogue et d'attention. Écoutez la réaction du porte-parole des évêques de France, Mgr Bernard Potvin.
J'ai envie de dire que là, au stade où nous sommes, ce qui est très important, c'est qu'il y ait eu cette rencontre. Il est essentiel qu'elle ait eu lieu. Le président de la République a souligné des points de convergence. Il a parlé de la laïcité comme vraiment permettant le débat. Et bien maintenant, j'ai envie de dire, il faut donc que cette laïcité permettant le débat soit concrète, notamment pour ces sujets de société. Et c'est ce que nous espérons.
Alors, le président Hollande a notamment indiqué que la défense de la dignité humaine a été le mot qui rassemble. L'Église catholique et le gouvernement français sont-ils vraiment en phase sur ces sujets ?
Le mot dignité humaine est essentiel, mais après, il faut savoir ce que l'on met derrière ce mot. Il ne suffit pas de le prononcer. Il faudra donc évidemment creuser cela. Je pense que là, la rencontre avec le Saint-Père est très importante parce que le président de la République a pu mesurer le rayonnement du pape, l'importance que le pape accorde à toutes ces questions. À charge maintenant pour nous tous de continuer à être vigilants sur ces questions de dignité.
Maintenant, parlons des catholiques français. On constate qu'il y a un véritable malaise, voire même un sentiment de colère qu'on voit par exemple sur les réseaux sociaux, même dans la rue. Les catholiques se sentent assiégés, dénigrés, mis à l'index et ont adressé une supplique au pape François qui a recueilli près de 110 000 signatures. Comment la hiérarchie catholique perçoit-elle cette initiative ?
Eh bien, cette supplique qui est envoyée au Saint-Père est un signe très fort. Elle est un symptôme du malaise. Le malaise de la non-écoute ressenti par notamment une jeune génération, le fait que des jeunes couples, des jeunes croyants ont pris le temps d'écrire cette supplique est bien révélateur qu'il y a une non-écoute. Et ça doit interpeller absolument les pouvoirs publics. Ils ne peuvent pas être indifférents à un tel nombre de signatures. Il y a dans cette supplique des phrases parfois maladroites, des phrases sur lesquelles toute la hiérarchie catholique n'est certainement pas d'accord, mais globalement, c'est un signe fort qui a été envoyé. Cette supplique, elle est révélatrice en elle-même d'un malaise. Et c'est cela que moi je retiens personnellement comme une interpellation importante. Et il faut vraiment qu'on en tienne compte. Et je voudrais surtout dire aux auditeurs qui nous écoutent et qui souffrent tous ceux qui ont des inquiétudes pour leur avenir, tous ceux qui sont désemparés, soit par le malaise sociétal ou par l'inquiétude économique. Je voudrais leur dire à quel point le pape François nous montre à travers cette façon de recevoir le président français qu'il est avec nous, il se préoccupe de nous, il a vraiment une attention profonde à tous les pays, dont le nôtre. Et j'ai entendu le président de la République qui dit avoir invité le pape chez nous. Et bien, je me réjouis, comme beaucoup de catholiques, déjà d'entendre cela. Et l'Église catholique, bien sûr, aussi invite et invitera le Saint-Père. Et ce sera un bonheur vraiment immense que de le recevoir dès que possible.
Monseigneur Bernard Potvin, porte-parole des évêques de France, interrogé par Manuela à Fiji. Non loin du Vatican, une bombe artisanale a explosé dans la nuit de jeudi à vendredi près de Saint-Yves-des-Bretons, l'une des églises françaises de Rome. Elle n'a fait que de légers dégâts matériels et, selon les enquêteurs, n'aurait pas de lien avec cette visite. La visite du président François Hollande au Vatican a par ailleurs coïncidé avec une fausse alerte à la bombe au Vatican sous la colonnade de Saint-Pierre. Ce samedi, dernier jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le pape François se rendra à la basilique Saint-Paul hors les murs, comme le veut la tradition, pour y célébrer les vêpres. Un groupe d'étudiants de l'Institut œcuménique de Bossé en Suisse assistera à la célébration. Plusieurs initiatives ont jalonné cette semaine de prière qui était placée cette année sous le thème « Jésus-Christ ne peut être divisé ». Ainsi, au Portugal, des représentants des églises catholiques, anglicanes, presbytériennes, méthodistes et orthodoxes signeront samedi à Lisbonne une déclaration de reconnaissance réciproque du sacrement de baptême lors d'une célébration œcuménique nationale. De son côté, la présidence du Conseil des conférences épiscopales d'Europe, réunie à Gênes en Italie, a appelé les chrétiens européens à livrer un témoignage commun dans les différents secteurs de la société, à ne pas se servir du Christ pour justifier leurs incompréhensions et leurs divisions, à ne pas séparer la dimension religieuse de leur foi entre vie publique et vie privée, à ne pas mépriser le don de la vie. Le témoignage commun des chrétiens est particulier urgent dans des sociétés qui sont devenues multiconfessionnelles. Il faut montrer la proximité de Dieu à l'homme contemporain. Des divisions, justement, il en existe entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe russe. Mais les deux parties multiplient les discussions et les rencontres pour améliorer leurs relations. En décembre dernier, le cardinal Koch, président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, a rencontré lors d'une visite officielle le patriarche Kirill à Moscou. Une rencontre qui, selon certains observateurs, serait le signe que des progrès vont être faits dans le dialogue entre Rome et Moscou. Alors, quel est aujourd'hui l'état des relations bilatérales? Qu'en est-il des discussions autour de la primauté? Audrey Radondi a posé ses questions au père dominicain Hyacinthe Destivel. Il est en charge du dialogue avec les orthodoxes au sein du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens.
On peut dire que les relations entre l'Église orthodoxe russe et l'Église catholique se sont intensifiées ces dernières années. Il y a eu de nombreuses visites de prélats catholiques en Russie et de prélats orthodoxes. De nombreux projets culturels entre les deux églises. Le patriarcat de Moscou a publié à la fin de l'année dernière un document assez important, un document officiel du Saint-Synode sur la conception qu'a l'Église orthodoxe russe de la primauté. Disons que c'est un document qui permet de clarifier la position de l'Église orthodoxe russe. C'est donc un document qui est pour nous évidemment important. Ça va nous permettre d'aller de l'avant, nous l'espérons, dans le dialogue théologique qui porte actuellement sur les relations entre primauté et conciliarité.
Quel cheminement doit prendre les deux églises?
Je crois qu'il nous faut réfléchir à nouveau à l'invitation qu'avait lancée le pape Jean-Paul II dans l'encyclique Utunum Sint, où il avait invité les orthodoxes et les catholiques à réfléchir à la façon dont la primauté de l'évêque de Rome pourrait s'exercer d'une façon qui soit acceptable par les uns et par les autres. La primauté telle qu'elle est actuellement vécue et pensée dans l'Église catholique ne peut sans doute pas s'appliquer à l'Église universelle de cette façon-là. Mais en même temps, on ne peut pas non plus en rester à une primauté qui soit d'honneur au sens où elle n'aurait aucun contenu canonique. Donc il faut actuellement réfléchir ensemble. La question ne c'est pas de savoir si nous accepterions, si eux accepteraient, si ensemble nous acceptons une conception commune de la primauté.
Selon vous, de quelle nature vont être les relations à venir entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe russe?
Le fait que le patriarcat de Moscou ait publié ce document sur la primauté va, je pense, stimuler le dialogue. Il y a aussi beaucoup de discussions inter-orthodoxes et c'est un moment particulièrement intéressant puisque, comme on peut le constater, le pape François est aussi très soucieux de promouvoir la collégialité, la conciliarité, comme disent les orthodoxes, au sein même de l'Église catholique. Et cela a d'ailleurs été souligné aussi par le patriarche Cyril lors de la rencontre que le cardinal Courtecor a eue avec lui au mois de décembre dernier. Et dans son exhortation apostolique, le pape François parle des dons que les catholiques peuvent recevoir des orthodoxes et il mentionne justement ce fait de la collégialité comme d'un don que les catholiques peuvent voir dans les églises orientales et dont nous pouvons profiter pour notre propre expérience ecclésiale.
Plus généralement, concernant l'œcuménisme, certains disent qu'il est en panne et d'autres au contraire que la baisse des effectifs dans toutes les églises oblige à se serrer les coudes. Qu'en pensez-vous ?
C'est vrai, l'œcuménisme tel que nous l'avons connu dans les années 60 et 70 ne connaît pas le même enthousiasme que celui que nous avons connu juste après le Concile Vatican II. C'est peut-être parce qu'on a une fausse conception de l'œcuménisme. On pense que l'œcuménisme, c'est la recherche d'un plus petit commun dénominateur. C'est la recherche du compromis, qu'on va perdre son identité. C'est au contraire, dans le dialogue, mieux se connaître, connaître mieux sa propre identité et s'enrichir des dons que peuvent avoir les autres églises. Actuellement, on le voit bien dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de régions du monde, dans nos sociétés sécularisées, nos fidèles ne comprennent plus pourquoi nous sommes séparés. C'est un scandale. Et nous avons besoin de nous unir avant tout pour le témoignage, avant tout pour l'évangélisation, avant tout pour la mission.
Le père Hyacinthe d'Estivel, chargé du dialogue avec les orthodoxes au sein du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. De son côté, la Commission internationale de dialogue luthérienne catholique participe aux préparatifs du 5e centenaire de la réforme de Luther, qui sera célébré en 2017. Catholiques et luthériens veulent commémorer ensemble cet anniversaire dans une attitude de joie commune et de douleur partagée, mais aussi célébrer les 50 ans de dialogue œcuménique officiel au niveau mondial. Ce dialogue a permis des avancées sur la justification, l'Eucharistie, le ministère, l'Écriture et la tradition. Dans la foulée du Concile Vatican II, l'Église catholique s'est désormais démarquée de l'attitude d'opposition polémique des siècles passés. Catholiques et luthériens n'entendent pas célébrer les divisions de l'Église, mais au contraire raconter et évoquer ensemble la pensée théologique et les événements liés à la réforme. Si des divergences demeurent, les deux parties reconnaissent que les principaux motifs à l'origine de leurs accusations réciproques n'existent plus. Elles sont disposées à reconnaître leurs erreurs et espèrent parvenir à mettre au point une déclaration commune avant 2017. Le pape François s'est adressé pour la première fois ce vendredi matin aux membres du tribunal apostolique de la Rote romaine à l'occasion de l'inauguration de l'année judiciaire. Dans son discours, il a souligné qu'il n'y avait pas d'opposition entre la dimension judiciaire et la dimension pastorale du ministère ecclésial. La première, en tant que service de la vérité dans la justice, a en effet une connotation profondément pastorale, car elle vise le bien des fidèles et la construction de la communauté chrétienne. Elle s'inscrit donc pleinement dans la mission de l'Église. Grâce à leurs compétences, les juges de la Rote romaine offrent par ailleurs leur contribution à la gestion des problèmes pastoraux qui peuvent se présenter. Et le pape François a adressé une recommandation à tous les membres du tribunal de la Rote romaine. Lorsque vous administrez la justice, n'oubliez pas que vous êtes des pasteurs. Derrière chaque dossier et chaque procès, il y a des personnes qui attendent que justice soit faite. Marie-Christine de Savoie, reine des deux Siciles, sera béatifiée ce samedi à Naples par le cardinal Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des saints. Fille du roi Victor Emmanuel Ier, épouse du roi de Naples Ferdinand II, elle consacra une partie de sa vie aux pauvres, lançant des initiatives sociales audacieuses, puisant dans son patrimoine personnel pour offrir une dot aux jeunes filles démunies, relançant la petite industrie du corail et de la soie. Très pieuse, elle lutta contre la peine capitale, alors très courante à Naples. Elle mourut à l'âge de 24 ans en 1836, après avoir donné le jour à son unique enfant. D'autres reines ont été canonisées comme Marguerite d'Écosse, Edwige de Pologne ou Élisabeth du Portugal. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican. En français, bonne fin de semaine à tous.